Le journal présenté par Raphaël Chalvera.
Bonsoir. Le oui au Concordat le 22 septembre s'affiche dans le Jura et le Jura bernois. Des comités interpartis ont vu le jour dans les deux régions pour recommander l'acceptation du document qui règle le transfert de Moutier dans le Jura. Parmi leurs arguments, tourner la page et respecter le choix des prévôtois. Chant du Gros, acte 2. Le festival se poursuit ce soir au Noirmont. Nouveauté de cette 32e édition, les enfants de 5 à 15 ans payent désormais une entrée. Reportage dans un instant. Le chemin de fer a fait son apparition il y a 150 ans dans la région. Le 129e numéro de la revue Intervalle est consacré à cet anniversaire. L'arrivée du train a constitué un vecteur de progrès, notamment pour l'industrie jurassienne. Météo, le soleil sera à nouveau au rendez-vous demain. Quelques averses orageuses pourraient se produire dans la nuit de samedi à dimanche. Côté température, on observera jusqu'à 28 degrés en plaine et 24 à 1000 mètres. Un oui clair au Concordat dans les urnes le 22 septembre pour clore le chapitre Moutier. L'appel lancé aujourd'hui par une large union des partis politiques jurassiens, mais aussi des partis du Jura bernois. Un comité jurassien qui réunit CSPOP, VERT, PS, PCSI, Le Centre, les Verts libéraux et le PEV a présenté ce matin ses arguments à deux semaines de la votation populaire censée entériner le transfert de Moutier dans le Jura. La classe politique jurassienne est consciente que l'aspect financier a pu crisper le débat au sein de la population. Le député CSPOP Rémi Burin ne croit pas toutefois en un désintérêt ou un rejet de la population jurassienne.
J'espère que la minorité silencieuse, même s'il y a une personne qu'on entend un peu trop, sera vraiment une minorité ridicule. Je pense quand même que par rapport à ce qu'on a vu le 23 juin avec la fête du peuple et la célébration du 50e anniversaire du plébiscite, l'engouement populaire qu'il y avait ce jour-là, ça m'a en tout cas personnellement fortement rassuré de me dire que les jurassiens vont se déplacer pour dire oui à l'arrivée de Moutier. Il n'y a pas de raison de dire non. Si Moutier ne revient pas dans le canton du Jura, nous aurons toujours des problèmes financiers qu'il faudra résoudre. Donc au contraire, je pense qu'à moyen terme, Moutier sera un apport financier et économique très fort pour le canton du Jura, donc c'est plutôt un atout de ce point de vue-là. Il ne faut pas avoir une vision à très court terme en disant mais finalement on devra passer par des augmentations d'impôts. Et si c'est le cas, ce n'est pas pour l'arrivée de Moutier, peut-être pour d'autres raisons, parce qu'il y a des difficultés financières.
Dans le Jura bernois, une union similaire des partis a aussi appelé ce matin à voter oui au Concordat. Les Verts, le PS, le PEV, le Centre et les Verts libéraux veulent tourner la page d'un chapitre, selon eux, long et douloureux pour la région. L'argument principal est surtout de faire respecter la volonté des habitants de Moutier exprimée lors de plusieurs votes. Un choix difficile mais rationnel pour un Bernois convaincu comme le député du parti évangélique Tom Gerber.
Je suis pro-bernois convaincu, je suis antiséparatiste. Simplement, il faut voir la chose de manière factuelle. Et c'est vrai que si j'écoutais uniquement mes émotions, j'irais aussi glisser un non à ce concordat. Mais la réalité, c'est que, en fait, un non au concordat ne peut pas empêcher le départ de la ville de Moutier. Ce trait-là, il est parti. Et aujourd'hui, le Jura bernois, la région du Grand Chastral, a un intérêt certain de clore cette question, d'écrire une nouvelle page d'histoire. Dire non au concordat, ce serait remettre le gouvernement bernois, le gouvernement jurassien autour de la table pour négocier autrement. Mais en fait, on doit quand même considérer que ce concordat est assez équilibré. Je pense qu'il faut vraiment donner la voix de la raison à cette votation.
Et pour rappel, un non au concordat mettrait fin au processus et Moutier resterait bernoise sans nouvelle négociation. Le Théâtre du Jura doit se chercher un nouveau directeur, censé succéder à Robert Sandeau en février prochain. Dorian Rossel n'entrera finalement pas en fonction. La décision a été prise conjointement par le conseil de fondation et le metteur en scène Genevois. Selon le Théâtre du Jura, Dorian Rossel est actuellement visé par des attaques personnelles. L'établissement indique que ce dernier va déposer une plainte pénale contre inconnu pour diffamation, voire calomnie. Le Théâtre du Jura ne fera pas d'autres commentaires en l'état. Selon la Tribune de Genève, Dorian Rossel est mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel. Le poste de directeur du TDJ sera mis au concours prochainement. Pour rappel, Robert Sandeau a été nommé directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel. Le contrôle officiel des champignons sera ouvert dès lundi à Delémont. Une permanence sera accessible tous les jours de 18h à 19h à la rue de Chêtre 36. Les récoltes doivent être présentées dans des paniers et non dans des sacs ou des sachets. Les champignons doivent par ailleurs être frais et dans un bon état sanitaire. L'an dernier, 87 kg de champignons non comestibles, toxiques ou mortels avaient pu être identifiés par les experts. Le marché de Noël de Delémont voit plus grand. L'événement qui se tiendra du 13 au 15 septembre prochain dépassera le cadre de la rue du 23 juin pour s'étendre à la place de la Liberté et à la rue de l'Église. Le nombre de cabanes à disposition des exposants va ainsi s'accroître de 15%. Une zone entièrement consacrée à la restauration est par ailleurs prévue sur le marché de Noël. C'est une nouveauté à la billetterie du Champ du Gros pour cette 32e édition lancée hier au Noirmont. Le festival a mis en vente des tickets entre 2 et 3 francs pour les enfants âgés de 5 à 15 ans, alors que l'entrée était gratuite pour cette tranche d'âge lors des précédentes éditions. Selon les organisateurs, cette mesure est nécessaire pour compter le nombre de jeunes festivaliers et ainsi augmenter la sécurité. Mais cette nouvelle politique s'est heurtée à quelques critiques sur les réseaux sociaux, notamment Nicolas Meusy s'est baladé dans l'enceinte du festival pour connaître l'avis des parents.
Plus de 45 000 personnes sont attendues cette année au Champ du Gros et toutes ont dû passer par la case billetterie aussi pour leurs enfants. Et ce changement est plutôt bien accepté chez les familles.
Ce soir, je suis venu avec ma fille. Pas de souci, moi, au niveau de la sécurité, je suis pompier. Puis il n'y a aucun problème pour moi, je trouve tout ça fait raisonnable. Puis le prix est tout à fait correct. Dans d'autres festivals, que tu sois un enfant ou un adulte, on paie le même prix. Tandis qu'ici, 2 francs, c'est juste symbolique.
Alors, je suis venu avec mon conjoint et mes 2 enfants. Aucun souci, enfin, pour moi ça me semble correct et c'est vraiment un prix, enfin, personnellement, que je trouve dérisoire pour ce qui est présent ici au Champ du Gros. Donc franchement pour moi c'était vraiment aucun souci de payer ce prix-là et comme dit ça me paraît tout à fait normal.
Alors avec mes 3 enfants et puis il y a mon conjoint qui va nous rejoindre ainsi que ma sœur et son conjoint. Non mais je comprends que c'est plus simple de pouvoir répertorier ou avoir les statistiques par rapport au nombre d'enfants qui sont dans le Champ du Gros sans comprendre après de payer des billets. Ça aurait pu être sympa que ce soit juste symbolique, mais qu'on ait un billet comme au tartare de miettes.
2 ou 3 francs, c'est pas symbolique pour vous aussi le prix ?
Si, oui, ça reste symbolique. Non, c'est clair.
Alors là, j'arrive avec mon fils. J'imagine que c'est pour des soucis d'organisation, donc ça m'a posé aucun problème. J'ai eu la chance de m'y prendre assez à l'avance, avant que les billets disparaissent. Donc j'imagine que ceux qui se sont retrouvés sans billets, avec la complexité d'organiser ça avec les enfants, ont peut-être effectivement eu de la peine. Mais voilà, moi j'ai eu la chance de m'y prendre à l'avance, donc c'était tout simple.
Si les parents rencontrés semblent s'être accommodés de cette nouvelle politique pour les tickets, d'autres ont été plus réfractaires. Le Champ du Gros a essuyé plusieurs critiques sur les réseaux sociaux. Il est notamment reproché aux organisateurs de gonfler leur chiffre d'affaires et de manquer de clarté dans leur communication, ce que le patron du festival rejette, Gilles Pierre.
On a communiqué, évidemment des gens sont passés à travers, c'est vrai que ça fait très 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 longtemps que c'était gratuit. Nous le but c'était vraiment pas du tout de faire payer les enfants puis de gagner de l'argent. Vous pensez bien qu'avec 2 francs d'ailleurs on n'en gagne pas, mais c'était vraiment par mesure de sécurité de dire à un moment donné on a besoin de savoir combien d'enfants vont venir au Champ du Gros. Donc voilà, c'était vraiment pas du tout une volonté d'embêter les gens, c'était vraiment une volonté de sécurité. Et puis je comprends que les gens qui n'ont pas acheté leur billet se retrouvent aujourd'hui à dire mais comment je fais ? Eh bien on fait comme quand on est adulte et puis qu'il n'y a plus de billets, on ne vient pas malheureusement. C'est clair que l'année prochaine les gens sauront qu'il faut acheter un billet et du coup l'achèteront.
Le Champ du Gros a tout de même écoulé 6000 billets enfants pour les 3 jours du festival. L'événement est même à guichet fermé depuis le mois de juin pour toutes les tranches d'âge et les abonnements.
Bonsoir, bonne soirée.
Les organisateurs du Champ du Gros mettent encore en vente 100 de billets chaque jour à l'ouverture des portes. 1874, l'année où les trains ont commencé à circuler dans le Jura bernois, dans lequel le canton du Jura figurait à l'époque. Il y a donc 150 ans que les chemins de fer permettent aux habitants de la région de se déplacer plus vite et plus loin, mais aussi de transporter des marchandises. La revue Intervalle a décidé de consacrer son 129e numéro à cette thématique. Fin connaisseur du développement du chemin de fer, c'est l'Imérien Francis Detviller qui en est l'auteur. Il revient sur les raisons de l'arrivée du train dans le Jura historique.
Pour des raisons qui, je dirais, sont les mêmes qu'on trouve partout ailleurs, le chemin de fer était un facteur de progrès, c'était le nouveau moyen de communication. Et le Jura bernois, qui était déjà avant le chemin de fer une région industrialisée avec l'horlogerie, mais aussi avec une certaine industrie métallurgique, a voulu lui aussi bénéficier du progrès.
Comment le tracé, finalement, les tracés ont été choisis ? Comment on a décidé par où allait passer ce train ?
Premier élément qui a dicté le choix, c'est comme aussi la plupart des lignes de chemin de fer, c'était le tracé des rivières. Depuis bien, on remontait la Suze jusqu'à Sonsbeau, et ensuite jusqu'à Chaux-de-Fonds. En revanche, là, il y a une première discussion à l'époque pour la continuation en direction de Moutier, soit en passant sous le Pierre-Pertuis, ce qui a été réalisé, ou bien un tunnel qui aurait été plus direct sous le Monteau. Et le choix du Pierre-Pertuis a été fait, puisqu'à l'époque, il semble que la principale fonction de la ligne de chemin de fer sur une desserte fine, ce tracé par le Pierre-Pertuis permettait de toucher davantage de localités.
Francis Detviller répondait à Séverine Boé. Feu vert au projet de contournement routier à l'est de La Chaux-de-Fonds par la H18. Le tribunal fédéral a déclaré irrecevable le dernier recours des opposants par défaut de motivation dans l'ensemble des griefs exposés. Le gouvernement neuchâtelois se réjouit de cette décision. La construction du contournement peut désormais aller de l'avant et la mise en service à l'horizon 2030 se concrétise. Ce tronçon permettra de délester le centre-ville de La Chaux-de-Fonds de son trafic de transit. Le tourisme se porte bien en Suisse et plusieurs branches ont enregistré des chiffres records l'an dernier. La tendance se poursuit cette année, mais la progression est moins nette. Le nombre de nuitées dans l'hôtellerie n'a progressé que de 0,3% en juillet par rapport à la même période de l'année précédente, selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. Les explications de notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier.
La fréquentation dans l'hôtellerie a bondi de 9% l'an dernier par rapport à 2022, alors que cette année la progression n'est jusqu'ici que de 2%. Durant les mois de juin et juillet, les visiteurs étrangers ont continué à venir plus nombreux en Suisse, mais les hôtes indigènes sont en légère diminution. Une tendance qui peut s'expliquer en partie par la météo. Le mauvais temps et les prévisions instables ont conduit de nombreux visiteurs à renoncer aux excursions d'une ou deux journées, surtout dans les régions de montagne et au Tessin. C'est ce que révèle une enquête de Suisse Tourisme menée à la fin des vacances d'été. La fréquentation dans les villes a toutefois augmenté. Suisse Tourisme relève que le secteur doit toujours faire face à plusieurs défis, les conséquences du changement climatique, l'approvisionnement en énergie, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et l'inflation.
Le baromètre du tourisme du Centre de recherche conjoncturelle de Zurich prévoit une forte progression des nuitées l'an prochain et en 2026. Baiser, imposé, fellation forcée, propos à caractère sexuel, l'abbé Pierre est visé par une nouvelle salve d'accusations de violences sexuelles dans un rapport rendu public aujourd'hui. Accusations qui surviennent cette semaine après l'onde de choc provoquée par de premières révélations. À la suite de ces nouveaux témoignages au nombre de 17, dont certains portent sur des faits pouvant s'apparenter à des viols ou concernent des mineurs, la fondation Abbé Pierre a annoncé sa décision de changer de nom. Les faits dénoncés remontent à une période des années 50 aux années 2000, la plupart du temps en France, mais également aux États-Unis, au Maroc ou en Suisse. L'abbé Pierre est décédé en 2007.
À l'écoute d'RFJ, il est 18h12.
Sport. En cyclisme, le Tour de Romandie féminin tient son premier maillot jaune. L'Italienne Elisa Balsamo a remporté le tracé initial de l'épreuve entre la Grande Béroche et Lausanne cet après-midi. Elle s'est imposée sur le fil devant la championne du monde en titre, la Belge Lotte Kopecky. Demain, place à la montagne. La deuxième étape, longue de 102 km, emmènera le peloton de Chipis à Vercorin. Et puis, Primoz Roglic fait coup double sur le Tour d'Espagne. Le Slovène s'est imposé en solitaire cet après-midi au terme de la 19e étape accidenté. Il a devancé le Français David Gaudu et le Danois Mathias Skjelmose de 46 secondes. Primoz Roglic récupère du coup le maillot rouge de leader et se rapproche d'un quatrième sacre sur la Vuelta. Fin de ce journal, très belle soirée.